Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette 60e collégiale de la FEN. Collégiale qui sera sur la chaîne YouTube de la FEN et sur Format Radio, le nouveau média de l'association. Eh bien, nous avons aujourd'hui un sujet particulièrement intéressant qui est le storyboard, qui est un outil qui est de plus en plus développé, que les responsables de formation cherchent à appréhender. Et donc, pour cela, on a fait venir un expert du sujet pour aborder la thématique. On a la chance d'avoir Manal qui nous accompagne. Manal, bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir. Une première question, peut-être ?
Déjà, merci Mathieu Dubrut d'être avec nous aujourd'hui. Donc, qui est plutôt spécialiste de la pédagogie, mais qui maîtrise notre sujet d'aujourd'hui et qui va déjà nous introduire à ce qu'on peut appeler du storyboard. Qu'est-ce que c'est que le storyboard ?
Oui. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, le storyboard, concrètement, c'est une histoire. Pourquoi c'est une histoire ? C'est une histoire en images, notamment. Souvent, le storyboard s'appuie sur ce qu'on va appeler un script. Et dans le script, finalement, on va avoir des mots qui vont raconter une histoire, avec une structure, évidemment. Le storyboard, on va aller plus loin que simplement les mots. On va ajouter des images à ces mots et on va mettre des détails et on va appliquer des détails pour ces images. Donc, très concrètement, dans le secteur de la formation, le storyboard, c'est souvent un outil de travail pour des responsables formation, pour des ingénieurs pédagogiques, pour des digital learning managers, donc toutes les personnes qui vont chercher à transférer une idée dans leur projet de formation et qui doivent transférer ce projet et ces idées-là dans une histoire et ils doivent le transférer à un monteur. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le transférer souvent en vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que le storyboard est apparu dans la formation, puisque la formation utilise de plus en plus de vidéos. Et donc, pour travailler avec le monteur a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre comme idée. Le script, souvent, n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que ça laisse trop de place à l'interprétation, puisqu'on lui laisse totalement la responsabilité de l'image et du déroulement de toutes les images qui vont passer avec un simple script. Donc, l'idée derrière le storyboard, en fait, c'est de mettre des images sur des mots et d'en faire un outil de travail avec le monteur pour pouvoir transmettre des idées en détail.
C'est dans quel domaine que c'est utilisé ? Est-ce que c'est utilisé souvent dans la formation généralement ou c'est dans des secteurs plutôt spécifiques ?
Alors, j'ai principalement travaillé sur du e-learning. Donc, je dirais que c'est principalement utilisé dans des vidéos de e-learning. D'accord. Donc, il y a différents types de vidéos. Il y a des interviews, il y a des vidéos en stop motion, donc où on va avoir des images très, très rapides, comme les films qu'on voit en pâte à modeler. On va avoir du motion design, où là, ça va être du montage complet avec des icônes qui sont parfois créées, parfois qui sont utilisées, en fait, qui sont préfaits. Je dirais que le storyboard va principalement servir pour des vidéos comme du stop motion et du motion design. C'est-à-dire
alors,
que
design, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi concrètement ?
Alors, du stop motion, ça va être de l'image par image. Donc, vous allez avoir, je ne sais pas si vous connaissez le film Wallace et Gromit, par exemple. Il me semble que c'est des films qui sont faits avec de la pâte à modeler. Et ces petits films, en fait, on voit des petits bonhommes en pâte à modeler qui avancent. Et tout ça, c'est des images qui sont mises l'une après l'autre. Et on a l'impression que c'est relativement fluide, finalement. Mais c'est un travail, c'est un gros travail derrière, puisqu'il faut changer un tout petit peu chaque image, et donc du coup, les petits bonhommes de pâte à modeler. Donc ça, c'est du stop motion, c'est de l'image par image, et du motion design, là, on a de l'image qui est complètement fluide, et on va pouvoir créer du mouvement avec des logiciels, généralement, on arrive à créer du mouvement qui est complètement fluide, et donc c'est tout simplement un des dessins animés. Le motion design, c'est un petit dessin animé.
C'est d'ailleurs là où est né le storyboard, puisque c'était, me semble-t-il, Disney qui avait créé ça pour pouvoir communiquer avec ses monteurs parce qu'il leur lui donnait des indications, mais ils ne se comprenaient pas.
Voilà, c'est ça. Effectivement. Et du coup, ça a été popularisé par Walt Disney. J'ai regardé un petit peu l'histoire du storyboard et c'est réutilisé aujourd'hui pour la plupart des films. Et du coup, le travail de storyboarder, c'est un travail de réalisation. C'est un travail de réalisation.
Mais c'est utilisé uniquement dans le e-learning ou dans la vidéo, ou ça peut être aussi utilisé dans le présentiel?
Alors non, je n'ai pas été confronté à des situations où on avait besoin d'avoir un storyboard pour faire du présentiel. Mais cela dit, c'est totalement cohérent de faire du présentiel avec, avec un storyboard. Maintenant, je dirais que le storyboard, il va servir pour, encore une fois, transmettre une histoire. Et pour un présentiel, s'il faut faire un storyboard de 1h30 de présentiel, on va pas comment dire, dessiner 1h30 de présentiel sur un storyboard. En fait, on va surtout dessiner les moments clés de ce présentiel et des moments qui ont besoin de réalisation. On a besoin de détails, on a besoin d'une précision dans cette réalisation. Et c'est là que le storyboard et le dessin et l'image va pouvoir transmettre plus précisément des idées. Maintenant, si on a un exercice de 20 minutes pendant un présentiel ou après un moment où on a exposé quelques concepts, on a des questions-réponses. On n'a pas forcément besoin de dessin pour comprendre que ce moment-là va être dédié à des questions-réponses. Donc à ce moment-là, pourquoi le dessiner? Le dessin doit avoir a toujours un sens et chaque plaquette. Donc c'est toujours des petites cases qui montrent des moments clés. Et donc s'il n'y a pas dessiner un moment clé, on va pas le dessiner, c'est pas utile. Donc je pense que pour un présentiel, oui, il peut y avoir une certaine utilité, mais je dirais que ce serait peut-être d'ailleurs plus pour des événements, des présentiels mais qui sont événementialisés, et c'est là où on va avoir des moments clés, où on va potentiellement storyboarder ces moments clés là, donc faire arriver quelqu'un par la droite et cette personne va dire quelque chose ou des choses comme ça. Donc oui, pour du présentiel, maintenant je pense qu'aujourd'hui le storyboard est principalement utilisé pour des vidéos, pour learning.
D'accord. D'ailleurs, en parlant de durée, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a une durée maximale, minimale, ou est-ce qu'il y a d'autres règles qui font que c'est un storyboard ou pas?
Alors, sur les règles du storyboard, alors il y a deux questions dans cette question. Il y a la règle au niveau du storyboarding et la règle au niveau des vidéos. Je dirais que les règles au niveau des vidéos, c'est pas des règles, c'est plus des conventions qui, en fait, empiriquement, on s'est rendu compte que, voilà, une vidéo en fond vert qui dure 10 minutes, on a tendance à la lâcher au bout de 4 minutes parce qu'on se rend compte qu'il y a encore 6 minutes derrière. Ce qui fait que, petit à petit, les fonds verts ont été réduits et aujourd'hui font entre 3 et 5-6 minutes. Les vidéos en motion design, qui sont les dessins animés, du coup, là, on a encore des durées plus réduites encore, qui vont aller de 1 minute 30 à 3 minutes, 4 minutes. Mais quand on a 5-6 minutes de vidéo en motion design, on se lasse encore plus facilement que, par exemple, pour des vidéos fond vert. Par ailleurs, une interview, on est capable de regarder une interview de 20 minutes sans décrocher, finalement, parce que voilà, on est plus, le format est plus adapté à un format un petit peu plus long. Maintenant, ce n'est pas des règles absolues et ce n'est pas des conventions absolues. Il y a des vidéos en motion design, d'excellentes vidéos en motion design qui, pour moi, c'est les spécialistes du motion design sur Internet aujourd'hui, d'une chaîne qui s'appelle Kurzgesagt, qui sont des vidéos pédagogiques.
C'est un frisé au moment.
Alors, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Kurzgesagt. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais c'est Kurzgesagt in a nutshell. Et donc, ça va expliquer des concepts qui vont aller de la physique quantique à des paradoxes philosophiques ou encore des situations improbables, comme par exemple la dernière que j'ai vue, c'était « Et si on faisait exploser toutes les bombes nucléaires sur la planète ?» Et donc, il va développer une vidéo là-dessus, donc une histoire, finalement, il va développer une histoire, et c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien recherché, il est capable de tenir finalement des utilisateurs devant sa vidéo pendant 7-8 minutes, parfois 12 minutes. Donc, c'est pas des règles absolues, c'est des conventions. Maintenant, en formation, effectivement, on a plutôt tendance à utiliser les conventions qui vont être, voilà, pour des vidéos en motion design, ce sera plutôt de l'ordre de 2-3 minutes. Il y a une autre dimension aussi qui est là beaucoup plus opérationnelle, c'est que construire 2 minutes de vidéo en motion design, c'est déjà long. Et donc, si on devait construire 5-6 minutes en motion design, ce serait d'autant plus long à produire, non seulement au niveau du storyboard, mais également au niveau du montage. Le, le travail de montage sur du motion design, par exemple, extrêmement important. Bon, évidemment, selon la qualité, la durée du travail du monteur sera différente, mais c'est aussi pour ça. En fait, ça ne sert pas à grand-chose, finalement, d'aller beaucoup plus loin que les conventions, puisque pour passer une idée, quand on a du motion design, par exemple, on a de l'image, on a de l'animation, on a le script, donc avec des voix off. Et c'est souvent suffisant pour faire passer un concept clé. Il ne s'agit pas de vouloir tout dire, il s'agit de dire le principal. Et le secondaire, on peut le mettre soit dans des vidéos qui vont être des vidéos complémentaires, type fond vert, par exemple, et qui ne demanderont pas d'images aussi développées, d'animations aussi développées que sur du motion design. Mais ça peut être aussi tout simplement des ressources complémentaires. Et d'inciter les gens à aller voir les ressources complémentaires, ce qui se fait d'ailleurs beaucoup aujourd'hui sur beaucoup de vidéos YouTube. Il y a beaucoup de ressources complémentaires, et à chaque fois qu'on évoque ou qu'un concept va être évoqué, une recherche qui va être évoquée, on va mettre la ressource complémentaire et on va sourcer finalement, on va sourcer ça. Donc, il ne s'agit pas de tout dire, il s'agit de dire un message clé. Donc, en général, on travaille dans la construction de ce qu'on va appeler la vidéo. On va d'abord définir le message clé qui va dépendre finalement de l'objectif pédagogique qu'on s'est donné en premier lieu. Et ensuite, autour de ce message clé, on va identifier les quelques concepts clés qui interviendront aussi dans la vidéo. Et maintenant, ensuite, il va avoir un travail créatif où il va falloir raconter une histoire dans cette vidéo. Donc le storytelling, c'est extrêmement important dans la dimension pédagogique d'une vidéo. Pourquoi ? Parce que d'abord, le cerveau est conçu pour comprendre des histoires. On ne comprend pas le monde tel qu'il est, mais on comprend le monde à travers une histoire. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend mieux, tout simplement. Ce qui fait qu'il faut, dans une vidéo, que ce soit du motion design ou que ce soit un fond vert, on va avoir souvent une introduction, un développement et une conclusion. Dans cette introduction, voilà, on aura une petite accroche, etc., pour capter l'attention de la personne qui va regarder la vidéo. Mais on va avoir une structure de ce qu'on appelle storytelling, donc raconter une histoire pour pouvoir passer un message plus efficacement, finalement, à des apprenants.
Alors, avant de rentrer dans la partie comment est-ce qu'on, lorsqu'on a un projet de formation, comment est-ce qu'on débute et comment on le décline, on parlait du storytelling, le père du storytelling en France, qui est Christian Salmon, en 2008 avec son ouvrage, aujourd'hui dit « le storytelling ne permet plus d'être entendu », et donc il a écrit « l'ère du clash », il faut être transgressif, il faut prendre des positions fortes. Est-ce que dans le discours, il faut avoir des punchlines, des choses comme ça? Est-ce que ça a du sens? Ou tu dirais que c'est pas dans la formation, ça n'a pas le même impact?
Je pense que dans la formation aujourd'hui, mais je pense que d'ailleurs dans tous les corps de métier, il y a des conventions qui se créent par l'expérience. Maintenant, je pense que ce n'est pas des conventions qu'il faut particulièrement respecter. En fait, ou en tout cas, la convention qui me semble la plus pertinente à respecter, ça va être, relatif aux personnes qui vont regarder ces vidéos. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui sont sensibles, si la cible apprenante a été définie à travers, par exemple, un travail avec des personas, si la cible apprenante est plus sensible à des exemples très concrets de la vie de tous les jours, est sensible potentiellement à des punchlines, oui, dans ce cas-là, il faut mettre des punchlines. Si elle n'est pas sensible à des punchlines et que on a peur que le message soit mal compris ou ne soit pas accepté tel quel parce qu'on va mettre des punchlines et on va avoir l'impression que la personne dans la vidéo va faire ce qu'on va appeler un petit peu du bullshit, dans ce cas-là, on ne met pas de punchline. Et dans ce cas-là, on rentrera un petit peu dans le détail. Donc, pour moi, ça va dépendre de la cible apprenante et de ce qu'on a défini, comment aller comprendre notre cible, comment notre cible allait comprendre notre message. Et ça joue sur le vocabulaire aussi. On peut avoir un vocabulaire très soutenu, on peut avoir un vocabulaire très scientifique, et puis on peut avoir un vocabulaire beaucoup plus classique, beaucoup plus quotidien, et beaucoup plus naturel finalement.
Et maintenant, on est capable d'évaluer les personas. Est-ce que c'est uniquement par modélisation? On fait des tests? Quel conseil du jour?
Pour moi, ça, c'est une étape clé et c'est une des premières étapes dans un projet de formation. C'est-à-dire que souvent dans un dans une entreprise, il va y avoir le besoin, donc le besoin de l'entité qui a besoin de donner une formation à ses collaborateurs, et il y a le besoin collaborateur pur, le besoin pédagogique du collaborateur. Donc souvent on a le besoin client, quand enfin quand j'ai travaillé par exemple dans des entreprises, il y avait le besoin client, mais le besoin apprenant était plus difficile à capter. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas toujours accès aux apprenants, mais aussi parce que on n'avait pas forcément le temps, parce qu'on se disait on a bien compris le besoin apprenant, donc on va partir là-dessus et puis on va pas vérifier nos intuitions. Donc le développement de ces personas, ça peut prendre du temps. En général, plus on prend le temps, plus on va être précis, et a priori plus notre formation sera adaptée aux besoins, et donc du coup la pédagogie sera adaptée aux besoins apprenants. Donc ça, je pense que c'est une étape bien très très clé, mais c'est une étape qui se fait bien avant tout ce qui va être pensé une vidéo. À partir de cette étape-là, on pensera à une architecture, et ensuite on pensera à la production pédagogique pure. Mais oui, effectivement,
le besoin apprenant.
Oui, on peut utiliser des interviews, on peut utiliser des questionnaires, moi je me suis vu appeler des personnes pour savoir comment est-ce qu'elles se formaient. Est-ce que c'était pendant leur temps de pause? Est-ce que c'était pendant la pause midi? Est-ce que c'était chez eux, sur leur portable? Et tout ça va déterminer des choix qui sont extrêmement importants pour pouvoir construire la formation et de la diffuser et communiquer sur la formation. Si vous voulez faire une formation en mobile learning, ce qu'on appelle mobile learning, donc des formations qu'on va suivre sur mobile, il y a intérêt à ce que tous les collaborateurs aient un mobile et aient accès à cette formation, parce que sinon on va enlever des gens. Donc ça, c'est une étape préliminaire qui est le cadrage, ce qui est appelé le cadrage pédagogique. Et donc oui, il y a une dans le meilleur des cas, en fait, on vérifie un maximum nos intuitions. Donc quand on n'a pas forcément le temps, ou que les apprenants n'ont pas forcément le temps de recevoir nos appels et de passer 20 minutes avec nous pour qu'ils nous détaillent un petit peu comment ils se forment, on peut faire passer aussi des questionnaires qui vont prendre 5 minutes. Et là, on pourra savoir quelle est leur habitude de formation, qu'est-ce qu'ils attendent de la formation tout simplement aussi. Il y a des sujets qui sont très, très larges, et parfois, il faut faire des choix. Et ces choix-là, ils peuvent être basés notamment, et ça peut être intéressant, sur l'intérêt que va apporter l'apprenant sur les sous-sujets d'une thématique. Si on prend l'intelligence artificielle, par exemple, on peut parler de plein, plein de choses sur l'intelligence artificielle, mais il y a des choses que l'apprenant n'a pas envie de connaître forcément, n'y voit pas forcément l'utilité, et donc du coup, simplement en l'appelant ou en faisant un petit questionnaire, il dira bah, moi en fait je veux juste savoir ce que ça va changer dans mon quotidien. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va faire des choix pédagogiques et des choix de discours qui vont être adaptés finalement à son besoin, plutôt que de rentrer dans des détails techniques où on va parler de machine learning, de deep learning. Ça les intéresse pas finalement. Donc, pour raccrocher finalement...
C'est en amont, et une fois qu'on a analysé à la fois qui était demandeur, parce que c'est vrai que parfois, c'est le responsable de formation et pas l'apprenant qui est notre interlocuteur. Donc, est-ce qu'on fait plaisir au responsable de formation, aux partenaires sociaux, au manager ou à l'apprenant? Tout ça, c'est important, parce que ça n'a pas du tout la même finalité, très clairement. Quand on a, par exemple, sur du management, on nous dit que ça serait bien d'avoir un projet de management. Une fois qu'on a la commande, comment est-ce qu'on fait pour utiliser le storyboard?
Alors, je pense que justement, si on a un client qui nous demande, voilà, on voudrait avoir une formation sur le management, on va déjà creuser le besoin client, parce que pour moi, là, il est un petit peu flou. Donc, on va avoir cette expression de besoin au niveau du client pour bien cerner quel est le besoin en management. Est-ce que c'est plutôt une idée de faire du management un peu plus horizontal, avec des thématiques qui tournent autour de l'entreprise libérée, l'innovation managériale, ou est-ce que ça va être plutôt sur de la communication interpersonnelle entre manager et collaborateur? Donc, on va essayer de creuser un petit peu ce sujet dans un premier temps. Et ensuite, on ira voir les apprenants, donc les apprenants cibles. Et d'ailleurs, quand le projet n'est pas bien bien défini et qu'on a besoin d'exprimer le besoin client, on se rend compte que le périmètre de la formation, c'est-à-dire les apprenants la cible apprenante, elle est susceptible de changer un petit peu. Et donc, une fois qu'on a la cible apprenante qui a été définie, bon, bah là, on va pouvoir les appeler, faire nos enquêtes, vérifier nos intuitions sur le périmètre thématique, vérifier nos intuitions sur les modalités. Est-ce qu'ils préfèrent du présentiel? Est-ce qu'ils préfèrent du distanciel? Est-ce qu'on va mixer un petit peu des deux? Et ça, ça se fera aussi. Évidemment, il faudra le confronter avec son client, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une formation où on va prendre une journée en distanciel et trois journées en présentiel, alors que le client avait en tête qu'une seule journée dédiée pour cette formation. Donc, il y a toute une phase de négociation et de cadrage très important, non seulement le cadrage pédagogique, mais aussi le cadrage du projet pur, parce que c'est bien beau de vouloir faire du e-learning, mais si on n'a pas le budget pour faire trop de vidéos en motion design, bon, bah, on va plutôt se rabattre effectivement sur des vidéos fond vert et on va identifier quelles sont les vidéos les plus pertinentes pour faire du motion design. Donc, il y a tout ce travail-là. Et une fois qu'on va faire cette expression de besoin, le cadrage pédagogique, le cadrage projet, c'est là qu'on va valider une architecture pédagogique où voilà, on va dire on va faire ce module 1 en premier où on va introduire la thématique. Potentiellement, on pourrait proposer une dimension événementielle, donc faire ça en présentiel, une demi-journée de présentiel sur les lieux pour introduire le sujet. Et puis ensuite, on passe à du e-learning où on aura un community management derrière s'il est important, s'il est utile. Et donc, on va détailler un petit peu plus cette architecture pédagogique qui va se transformer finalement dans un plan de production. Et donc, c'est à ce moment-là où on va commencer à faire notre rétro-planning et on va commencer à bien détailler dans cette architecture tous nos objectifs pédagogiques module par module, les messages clés qui vont être passés pour chaque vidéo, pour chaque présentiel, pour chaque exercice présentiel finalement, par exemple. Et donc, on va détailler petit à petit tout ça pour arriver finalement à un plan de production où là, on va avoir, ça peut se faire par Excel, par exemple, mais sur une ligne, on aura la vidéo 1 qui va traiter du sujet X, donc du sujet, par exemple, le leadership. Si on veut reprendre tout ce qui est les thèmes managériels, on va prendre le sujet du leadership, on va faire la vidéo 1, le leadership avec son équipe. Et donc, on va identifier l'objectif pédagogique, c'est faire comprendre aux collaborateurs et aux managers qu'il y a une relation qui n'est pas seulement finalement verticale et une relation hiérarchique, mais qu'il y a aussi une relation d'équipe où il y a besoin d'un leader dans cette équipe et que cette relation n'est pas forcément définie par une relation hiérarchique, mais par aussi autre chose. Et donc, on peut potentiellement faire une vidéo là-dessus et ensuite proposer des ressources complémentaires, voilà, et proposer ensuite un exercice, voilà, ça peut être un quiz, ça peut être un exercice fil rouge, ça peut être un exercice qui va être fait en présentiel pour la suite, ça peut être proposer aux apprenants à l'issue de la vidéo d'aller sur le forum, de discuter autour de ça, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Donc tout ça va être défini dans notre plan de production et c'est là qu'on arrive, bon bah il faut produire notre vidéo maintenant. Donc qu'est-ce qu'on veut dire dans cette vidéo? Quels sont les messages?
Comment on dit, si je résume, au départ, il faut arriver à simplifier le message en se disant quels sont les messages forts sur une journée. Exactement. On a quoi, 5-10 messages forts?
Alors sur une journée de présentiel?
Une journée présentielle, parce que souvent il y a une volonté aussi de transformer le présentiel en numérique. Et c'est là où, justement, on utilise le storyboard pour être comme outil de transformation numérique.
Oui. Alors, la digitalisation de formation, c'est effectivement bien parce que ça permet plus d'accès, finalement, à cette formation-là. Souvent, on pense que ça va réduire les coûts, ce qui est en partie vrai, mais ça peut arriver que ça devienne une machine de guerre, les projets de digitalisation. Donc, ce n'est pas toujours vrai, notamment parce que finalement, quand on n'a pas suivi une bonne méthode, on n'a pas fait cette expression de besoin, on n'a pas fait ce cadrage pédagogique et on s'en mêle, on a beaucoup de boucles de feedback où finalement, on n'a pas bien réussi à transmettre les idées qu'on voulait dire dans une vidéo. Pourquoi? Parce qu'on n'a, par exemple, pas bien transmis nos idées au monteur de la vidéo, ce qui fait que le monteur, il a fait quelque chose qui ne nous convient pas. Mais pourquoi ça ne nous convient pas? Parce qu'on ne lui a pas bien transmis nos idées. Et ça, par exemple, typiquement, c'est le storyboard qui va permettre de nouer cette relation et de travailler, d'avoir un support de travail que deux personnes aux compétences différentes peuvent comprendre et sur laquelle elles peuvent travailler et coproduire finalement, puisque le monteur peut produire aussi le storyboard. Donc, il y a certains projets qui deviennent des machines à gaz. Pourquoi ? Parce que on suit pas une méthodologie qui est longue au début et où on a l'impression que ça avance pas forcément, mais qui est finalement très efficace pour pouvoir produire efficacement par la suite. Maintenant, les projets de digitalisation, il faut pas le voir dans l'absolu non plus. C'est-à-dire, c'est relatif encore une fois aux besoins apprenants et à l'objectif pédagogique de la formation. Il y a des moments dans le présent. Il y a des moments d'échange qui sont très difficiles à reproduire au niveau qualitatif en distanciel. C'est-à-dire qu'on peut faire des webcasts sur Internet, mais on n'est pas capable aujourd'hui de reproduire une dynamique aussi importante qu'entre 15 personnes lors d'un présentiel. Ce qui fait que les projets de digitalisation aujourd'hui sont drivés sur un modèle qui va être la pédagogie inversée. On va essayer de délivrer les concepts théoriques en général avec du distanciel et de laisser la place au présentiel pour avoir de la place pour discuter, faire des exercices en groupe de créativité, etc. Où en fait, finalement, le formateur va avoir une place extrêmement importante pour créer la dynamique dans ce groupe-là et finalement fédérer un petit peu une communauté. On essaie de reproduire ça en distanciel avec le community management, etc. Mais aujourd'hui, on est encore habitué dans les formations à discuter en présentiel et les discussions sur les forums sont beaucoup plus difficiles à dynamiser pour un community manager que pour un formateur en présentiel. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, le concept de digitalisation de formation, il faut rarement l'imaginer comme une digitalisation à 100%. Il faut digitaliser ce qui est intéressant à digitaliser et il faut garder ce qui est intéressant à garder en présentiel parce que pédagogiquement, ça fait complètement sens.
Au final, ça dépend de l'objectif qu'on s'est fixé ou du cadrage qu'on a effectué avec le client.
Exactement.
Est-ce que c'est jusqu'où on a envie d'aller en fait?
Exactement, c'est exactement ça. Et dans tout ça, on va avoir des problématiques de budget aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de budget pour faire du présentiel et pour produire un distanciel à côté. Alors on va se dire bon bah on va prendre tout ça et puis on va le mettre en distanciel comme ça ce sera beaucoup plus accessible. Nous on va faire des économies d'échelle à terme. Donc passons tout en distanciel et on accepte finalement la perte pédagogique qu'implique le distanciel. C'est des choix qui moi en tant qu'ingénieur pédagogique, je vais avoir tendance à privilégier la pédagogie, à mettre la pédagogie comme principe directeur, mais finalement je suis confronté à la réalité et c'est pas toujours la pédagogie qui va avoir le dernier mot.
D'accord. Vas-y Stéphane si tu veux.
Non, je t'en prie.
Un peu pour revenir sur les éléments clés, on a dit que en fait le plus important c'était déjà de définir c'est qui la cible idéalement si on le peut. Quel serait son objectif, faire un cadrage client, et ça va permettre de faire une architecture pédagogique qui est adéquate et qui va permettre d'avoir un contenu adapté. Après, le storyboard, ça implique aussi de la technique, et je me posais la question, est-ce que n'importe qui peut le faire? Est-ce que demain, je m'y connais un peu en formation, et j'ai envie de faire une petite vidéo storyboard ou quelque chose, ce que vous nous avez parlé depuis tout à l'heure, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir quelques notions beaucoup plus techniques
Très honnêtement, j'ai commencé à faire des storyboards sans avoir de notions techniques, je dirais. Je suis pas très bon en dessin, j'ai pas beaucoup de compétences de dessin. Souvent, quand on parle de storyboard, on se dit mais moi je peux pas faire de storyboard parce que je sais pas dessiner. Donc ça c'est effectivement un frein, mais c'est pas dans l'absolu c'est pas vrai. C'est-à-dire l'idée c'est de transmettre, l'important c'est de transmettre une idée. Pour transmettre une idée, quand on dessine un rond avec des petits traits, voilà, on est capable de dire si un, que c'est un bonhomme. En dessinant une bouche qui est comme ça ou une bouche qui est comme ça, on est capable de montrer si c'est quelqu'un qui est plutôt content ou qui est plutôt triste. C'est juste des traits, finalement. Donc, pour faire passer des idées, il n'y a pas besoin de savoir extrêmement bien dessiner. Il faut juste s'attacher à faire passer une idée. C'est l'objectif principal, finalement, du storyboard. Et ce qui est important dans ce storyboard, en tout cas dans la manière dont je l'ai utilisé, moi, c'est de faire passer ces idées à des monteurs. C'est-à-dire que pendant un moment, je travaillais qu'avec des scripts et je faisais, comme je voulais pas trop dessiner, je mettais mon script sur une colonne. Donc, je travaillais sur un document avec deux colonnes. Dans la première colonne, j'avais mon script et dans la deuxième colonne, j'avais des indications finalement. Donc, j'avais des différentes planches. Donc, c'était encore des planches, mais j'avais pas de dessin. Je mettais juste des indications. Donc là, il me faudrait un petit bonhomme qui va sauter en l'air et qui va atterrir sur cette plateforme. Et à ce moment-là, on a la plateforme qui va s'écrouler, etc. Et en fait, c'était de la pure description graphique. C'était de la description, pardon, avec des mots, mais c'était pas une description graphique. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé confronté à faire des allers-retours parce qu'ils n'avaient pas bien compris ce que je voulais faire, parce que je leur avais quelque part laissé trop de liberté à interpréter ce que je voulais faire. Et donc, on a commencé à faire des storyboards comme ça. Donc, je ne savais pas bien dessiner. C'est voilà, le monteur avec qui je travaillais à l'époque qui m'a un petit peu appris et qui m'a un petit peu initié à faire du storyboarding. Et à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à faire des petits dessins. Au début, ce n'était pas facile, mais très honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de frein fondamentalement technique à faire du storyboard. Ça va être plus un frein psychologique qui va être « je ne sais pas dessiner » ou peut-être avoir l'impression que ça prend trop de temps. Mais en fait, c'est exactement comme l'expression de besoin, comme le cadrage pédagogique, etc. C'est qu'on a l'impression que ça prend trop de temps, mais en fait, ça en fait gagner, non seulement pour le monteur, mais aussi après, surtout les boucles de feedback. Parce que quand on laisse trop de liberté, j'appellerais pas celle de liberté, mais quand on laisse trop de place à l'interprétation pour un monteur, lui, en fait, quand il va travailler, il va passer beaucoup de temps à essayer d'interpréter ce qu'on essaie de dire, plutôt qu'à monter purement et simplement ce qu'on veut dire. Pourquoi ? Parce qu'il essaie d'interpréter. Ok, qu'est-ce qu'il a voulu dire là ? Potentiellement, on travaillait ensemble, donc il m'envoyait des mails ou il venait me voir. Qu'est-ce que tu as voulu dire là, etc., etc. Donc ça, tout ça, c'est des petites pertes de temps entre guillemets, et on gagne ce temps-là en réussissant à lier l'écrit avec l'image et en apportant des détails pour que le monteur n'est pas à interpréter l'idée qu'on essaie de faire passer. Maintenant, si on veut être trop, trop précis, je sais que j'en discutais avec lui un petit peu, quand on laisse plus assez de liberté, bah, finalement, il s'ennuie un petit peu parce qu'il n'y a plus assez de créativité de son côté. Ce qui fait que je pense que le travail, finalement, du storyboard, on peut avoir un travail individuel à son niveau sur un storyboard, mais finalement, il y a une forme de livrable où on va avoir au moins une petite réunion finalement, même si c'est en distanciel, mais on va essayer de discuter du storyboard avant de l'envoyer définitivement au monteur. On va essayer de co-construire avec le monteur le storyboard finalement. Donc souvent, on écrit le script en premier, même si c'est pas forcément absolu et c'est pas une règle du storyboarding non plus. Parce que quand on écrit un script, finalement, on va imaginer comment va être la vidéo en même temps qu'on écrit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut dessiner en même temps et donner aussi les indications. Mais il s'avère que parfois, voilà, on écrit le script d'abord. Pourquoi ? Parce que parfois, c'est même pas nous qui l'avons écrit, mais c'est l'expert du sujet qui l'a écrit. Donc ça va dépendre des cas. Je pense qu'il faut être, dans ces cas-là, il faut être assez pragmatique. Mais le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de bien valider finalement à chaque étape, chaque passage de livrable. C'est-à-dire que l'expert souvent va potentiellement passer un script, et à ce moment-là, on va valider et on va revoir le script avec l'expert. Là, ça peut être une petite réunion d'une demi-heure, d'une heure, mais les experts, ils vont souvent avoir une écriture qui va être très, ils vont écrire un script comme s'ils écrivaient un article. Sauf que quand c'est un script et qu'on doit le parler après, on ne parle pas comme on écrit. Ce qui fait que les longues phrases de trois lignes sur un document Word, c'est impossible à prononcer quand on fait une voix off. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de souffle à la fin. Et donc, du coup, c'est là où le formateur ou le responsable pédagogique ou l'ingénieur pédagogique, ça va dépendre évidemment de la personne qui travaille là-dessus. Moi, j'associe ça au chef de projet pédagogique ou digital learning manager. C'est là où il va faire le lien entre tout ça. Et donc, il va s'asseoir avec l'expert en disant, on valide ce script-là. Ensuite, il va potentiellement construire son storyboard et il va s'asseoir aussi avec le monteur pour valider le storyboard. Et donc, on est assuré que avec l'expert, c'est bien ses idées qui sont passées et ses concepts qui n'ont pas été détournés, qui n'ont pas été interprétés par le chef de projet pédagogique. Et on s'assure avec le monteur qu'il ne va pas interpréter ces concepts-là avec de l'image. J'ai été amené à faire quelques vidéos où finalement, j'avais un script qui avait été validé par l'expert, mais comme j'avais pas été précis dans mon storyboard ou dans mon script, le monteur finalement avait mis en image des choses qui étaient incohérentes par rapport à ce qui était dit en script. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas expert du sujet. Et moi non plus finalement. Ce qui fait que c'est un travail qui est pas facile, mais je pense que c'est des étapes de validation extrêmement nécessaires pour éviter de perdre du temps avec du feedback finalement. Parce que nous, on va pas être capable de juger la vidéo. Finalement, c'est l'expert qui va juger la vidéo. Donc, l'expert va dire, non, c'est pas comme ça, etc., etc. Donc, c'est là où il y a un travail qui est important et c'est là où le storyboard est un outil de travail extrêmement utile pour éviter toute perte de temps et toute interprétation de sujet de formation.
Il existe des outils, des logiciels pour s'initier au storyboard.
Alors, j'ai regardé un petit peu. Moi, j'en ai pas utilisé. Très honnêtement, le storyboard, on prend une feuille de papier blanc, on fait des cadres et on écrit à la main notre script ou alors à la limite, on imprime notre script. Enfin, on peut taper notre script à l'ordinateur. On fait deux colonnes et puis après, on va faire notre planche et on va la dessiner. Maintenant, j'ai regardé un petit peu des logiciels. Donc, j'en ai trouvé un pas mal que je trouvais pas mal. C'était le logiciel. Donc, c'est en ligne, c'est en SaaS. Évidemment, comme tous les logiciels, il y a la version gratuite qui est pas mal et finalement la version payante qui est probablement très bien. Et celui que je préférais, c'était Board. Donc c'est boords.com. Donc ils ont une petite application que je trouvais assez sympa, qui se rapportait bien. Mais voilà, on peut faire un storyboard avec un outil comme Canva, qui est utilisé aussi pour faire des infographies, mais à ce moment-là, on l'utilise pour faire un storyboard. Donc, pour faire ce storyboard, si on fait ça en ligne, effectivement, on va pouvoir aller chercher des icônes aussi. Donc, moi, j'utilisais des bibliothèques gratuites comme Noon Project, ou je crois qu'il y a Flaticon aussi. Mais voilà, il y a pas mal de bibliothèques gratuites qui vont fournir des images, qui vont fournir des icônes. Parfois, il y a même des bibliothèques d'animation qui peuvent fournir aussi des petites musiques derrière. Donc, il y a des bibliothèques gratuites pour ça. Ça se trouve assez facilement. Maintenant aussi, quand on est, il y a une chose aussi qui paraît évidente, mais quand on veut faire des vidéos et qu'on veut apprendre à faire du storyboard, finalement, on va essayer de regarder ce qui se fait à côté. Et donc, c'est là où il faut aller regarder un petit peu comment est construite une vidéo en motion design, comment est construite une vidéo fond vert. Et il y a un bon exercice que je proposais quand je donnais une formation sur le storyboard, c'était de prendre une vidéo en motion design et d'essayer de faire le storyboard de cette vidéo. Donc, c'est du reverse engineering un petit peu de vidéo. Mais c'est un bon exercice finalement pour s'initier au storyboard. Maintenant, dans cette partie storyboard, il y a des choses qui ne seront pas forcément définies dans le storyboard, mais qui peuvent être importantes de définir et d'avoir en tête. Ça va être par exemple une charte graphique. Quand on a plusieurs vidéos qui peuvent être du motion design, mais aussi du fond vert, il y a du fond vert enrichi finalement où on va rajouter des icônes et des choses comme ça. C'est important d'avoir une cohérence dans toutes ces icônes-là, de réutiliser les mêmes icônes quand on veut parler des mêmes concepts. Et donc ça, il va potentiellement falloir en parler aussi avec le monteur. Mais ça va avoir aussi un impact sur potentiellement le budget, puisqu'on peut avoir des vidéos... Je me réfère surtout aux vidéos motion design, mais motion design, il y a des vidéos qui finalement... Il y a même des outils sur Internet où on peut créer sa petite vidéo en motion design et on a des animations qui sont préfaites finalement. Et donc, on va avoir des petites bulles qui pourraient apparaître sur l'écran ou alors une voix off ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire et ne pas coûter trop d'argent. Maintenant, si on veut une belle vidéo avec un design très flat, avec des animations qui sont très... Il y a beaucoup de dynamisme dans tout ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'animations, ça veut dire que ça va prendre plus de temps. Donc ça, c'est à définir aussi dans le cadrage projet, finalement. Au niveau du cadrage pédagogique et du cadrage projet, il va y avoir ces éléments graphiques qui vont être définis aussi. On peut avoir un graphisme un graphisme sobre, et on peut avoir un graphisme voilà qui soit un petit peu plus exotique, mais voilà, on va pas forcément mettre un graphisme exotique si dans la cible apprenante on a défini que c'est des gens qui s'attendent à avoir quelque chose de très sérieux, et donc à ce moment là ils vont préférer un graphisme qui soit peut-être un peu plus conventionnel.
Et puis pour les entreprises, il y a aussi la charte graphique de l'entreprise elle-même.
Exactement.
En information, et donc avec des codes qui viennent de la communication interne, qui sont souvent non négociables. Donc ça veut dire que ça limite la créativité, mais en tout cas, ça assure une cohérence.
Exactement.
Sinon, combien ça coûte alors tout ça?
Alors, combien ça coûte? Oui, alors pour une vidéo, je vais vous donner des fourchettes qui seront assez larges. Parce que comme tout élément de projet, ça va dépendre de ça dépend du temps qu'on a pour le produire, et ça va dépendre aussi de la qualité qui est attendue. Pour une vidéo fond vert, je dirais en termes de temps, une vidéo fond vert, un script de vidéo fond vert, ça peut s'écrire en une demi-journée. Si c'est plus complexe, ça peut s'écrire en une journée. Pour un script de motion design, malgré le fait que la vidéo souvent est plus courte, comme il y a une dimension storytelling qui est bien plus importante que dans une vidéo fond vert, parce que il y a un storytelling visuel qu'il faut penser. Je dirais qu'un storyboard de motion design, ça peut se faire entre une demi-journée pour des gens qui sont très aguerris, et ça peut aller jusqu'à 2 jours, 3 jours s'il faut qu'on travaille avec l'expert et qu'on travaille en plus avec le monteur aussi. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut devenir un petit peu machine à gaz. En termes de prix, une vidéo de motion design, une vidéo de 2 minutes, faut compter au moins une journée de montage pour un monteur. Il faut compter une journée de scripting aussi, avec des allers-retours avec les experts. Donc, je dirais qu'il faut compter 3-4 jours. Donc ça va dépendre si la vidéo est faite en interne, ce sera peut-être un peu moins cher, mais si c'est fait qu'avec des freelances, voilà, ce sera un petit peu plus cher. Donc il y a des vidéos.
Le prix d'un freelance sur ces sujets-là, c'est combien à peu près la journée?
Alors un motion designer qui va être un monteur spécialiste du motion design, donc qui a des compétences beaucoup plus techniques qu'un monteur qui va faire du fond vert. Le fond vert va pas demander énormément de compétences techniques, dans le sens où on va avoir une vidéo qui va être prise sur fond vert avec quelqu'un, et on va juste rajouter un petit peu quelques icônes, etc. À ce moment-là, il y a beaucoup moins de techniques à avoir que si on n'a absolument pas d'image de base et qu'il faut tout créer. Donc, un motion designer, je dirais que ça varie entre 350 et ça peut aller jusqu'à 600-700 € journée. Voilà, ça peut peut-être aller un petit peu plus haut, mais je pense que c'est les prix du marché.
Est-ce qu'il vaut mieux, quand on est dans une entreprise, internaliser, s'entraîner, se former à la maîtrise de ces outils, ou externaliser en disant autant faire travailler des freelances?
Ça, je pense que ça va être un choix au niveau de l'économie d'échelle. C'est-à-dire, si on fait beaucoup de vidéos, si on monte beaucoup de vidéos, si on fait beaucoup de vidéos en motion design, oui, c'est intéressant d'avoir une compétence. Et finalement, si cette compétence n'est pas suffisante, ce sera la plus à même, finalement, pour pouvoir discuter avec des freelances qui seraient recrutés en support. Donc, ce que je dirais, c'est ce qu'il faut interner. Bon, ça, c'est un parti pris, évidemment, mais ce qui est le mieux à internaliser pour moi, c'est la partie pédagogique, finalement. C'est d'avoir la réflexion pédagogique de base, et ensuite de pouvoir discuter avec les différentes compétences, où ces compétences-là, finalement, elles vont être clés, mais toujours dans un objectif pédagogique. Maintenant, voilà, internaliser un motion designer, je pense que ça va pas se faire en petites entreprises, notamment pour de la formation. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, je pense qu'il y a plus de motion designers dans les services communication que dans les services formation. Maintenant, c'est intéressant aussi de faire finalement de faire discuter ces deux services-là et d'emprunter la compétence de motion design du service communication pour la formation, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est comme ça que ça se passe en entreprise? Bon, je sais pas, mais c'est une manière de faire discuter des services qui, voilà, discutent pas toujours. Mais après, ça, c'est vrai aussi pour plein d'autres dimensions de la formation. Je veux dire, un community manager, service formation l'ont pas toujours. Maintenant, la compétence pour le community manager, finalement, d'une entreprise, il a la compétence et il peut la transférer à des formateurs, à des responsables formation, voilà, qui seront capables d'animer une communauté si besoin. Maintenant, en termes de montage, compétences de montage, moi aujourd'hui je monte très peu, mais aujourd'hui je suis capable de monter plus ou moins une interview, dans le sens où une interview ça va être que des coupes. Finalement, ça va être des coupes au montage. Là-dessus, une fois qu'on maîtrise un minimum le logiciel, voilà, on est capable d'apprendre à faire des petits montages. Même quand on n'a pas la compétence technique et qu'on n'a absolument aucune certification, maintenant, effectivement, il faut qu'il y ait un transfert de compétences quelque part. Mais si cette compétence existe, finalement, les services formation peuvent la récupérer. Il peut y avoir ce transfert de compétences en interne dans l'entreprise. On n'est pas forcément obligé de toujours recruter une compétence pure et dure. Voilà, la compétence existe probablement dans l'entreprise. Elle peut être transférée même de manière un petit peu légère, mais ça peut déjà apporter quelque chose dans un service formation.
Et pour les montages, il y a des logiciels à conseiller qui ne sont pas très compliqués à utiliser quels sont les meilleurs, quels sont les plus faciles à utiliser?
Alors, moi, j'ai appris à monter un petit peu sur Adobe Premiere, donc le logiciel de montage le plus répandu, je pense, et qui en fait a des petits plugins, notamment par exemple pour faire des effets spéciaux, donc tout ce qui va être motion design, là on va avoir un plugin qui va être utilisé. Maintenant, en termes de logiciels en ligne, non, j'en ai pas en tête. Ça se trouve, clairement ça se trouve. Il y a des petits logiciels qui permettent aussi d'exporter des vidéos. Donc ça, c'est ce qu'on utilisait avec nos monteurs et que j'ai utilisé par la suite aussi. Alors, je me souviens plus exactement du nom du logiciel, mais l'idée, en fait, c'est de poster une vidéo sur Internet et de la fournir à son client qui va être, voilà, le chef de projet pédagogique souvent. Et en fait, le chef de projet pédagogique va pouvoir faire ses feedbacks à la seconde près sur la vidéo, ce qui permet de travailler comme ça en asynchrone plutôt que de faire une réunion de 2 heures pour retravailler toute la vidéo ensemble. On est capable de faire voir la vidéo au chef de projet pédagogique, à l'expert et à tout le monde, et chacun peut faire ses retours finalement. Et ça permet au monteur, en fait, d'avoir les retours exactement à la seconde près. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, il y a plein de petits logiciels comme ça qui permettent de s'initier et de faire du... Voilà, c'est pas du prototypage, mais c'est pas des grandes vidéos qu'on arrivera à monter avec des petits logiciels. Quand il y a besoin de précision, on n'ira pas sur des logiciels qui sont en SaaS et qui ont leur partie gratuite. C'est pas des logiciels qui proposent de la précision, c'est des logiciels qui proposent de l'accessibilité, ce qui est intéressant parce que finalement entre ne pas faire de vidéo en motion design parce qu'on n'a pas la compétence et trouver sur internet un logiciel qui permette de faire un petit motion design qui est pas extrêmement qualitatif par rapport à d'autres vidéos, mais c'est déjà ça permet de transférer une idée. Je pense que c'est le principal. C'est encore une fois, ça c'est un arbitrage entre voilà, quelle est l'importance pédagogique de la qualité de l'image et la qualité de la vidéo et au regard du budget qu'on a et du temps qu'on a.
Mais c'est intéressant aussi de voir, de s'essayer, parce que même si on ne devient pas un professionnel, enfin sauf si c'est le choix de la société, ça permet de comprendre ce qu'on met derrière les mots. Et souvent, dans l'ingénierie pédagogique où on n'est pas dans l'âge du fer, FAIRU, dans ces cas-là, il faut mettre un peu les doigts dedans pour faire ça de façon très, très artisanale. Mais ça permet de comprendre ce qu'on met derrière les mots. Et donc, ça permet de travailler avec plus d'intelligence collaborative. C'est-à-dire qu'on sait quoi demander, on comprend quelles sont les problématiques. Sinon, on se dit le montage est très facile, on prend des postures un peu éloignées de la réalité. Et c'est intéressant d'avoir le faire ensemble.
Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est même quelque chose qui s'applique bien au-delà de la formation. Mais c'est de savoir ce que les personnes avec qui on interagit, avec qui on va travailler, qui vont être finalement dans toute la chaîne de valeur de ce qu'on veut produire. C'est important de savoir ce qu'ils font parce que ça permet d'avoir un travail de meilleure qualité. On se comprend mieux quand on discute. On comprend mieux les enjeux. Personne quand on a une demande. Typiquement, moi, je me souviens, on reprend l'exemple du storyboard, mais je demandais des choses. Donc là, j'étais pas dans le dessin, mais j'étais plutôt justement dans le détail. Et je me souviens que les monteurs parfois me disaient, ouais, Mathieu, là, c'est extrêmement complexe ce que tu nous demandes, ça nous prend un temps immense. Du coup, je leur demandais quelque chose, je ne me rendais pas compte que ça leur prenait autant de temps. Et finalement, en travaillant avec eux et en comprenant comment ils travaillaient eux, qu'est-ce qu'il y avait, quel était le travail derrière ma demande, moi, ça me permettait d'adapter mes demandes et de comprendre que, voilà, en fait, ce que je demandais, ce n'était pas si important que ça. Finalement, je peux le simplifier, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut que je garde une position. Hein, s'il y a des choses que je trouve importantes et sur lesquelles ça va leur prendre du temps, mais que je pense que ça va être pédagogiquement important. Dans ce cas-là, ils le feront. Mais ça me permet d'arbitrer, voilà, avec un objectif pédagogique et en connaissance de cause, quel est le temps qu'ils doivent dédier sur les choses importantes et quel est le temps où on peut simplifier. Finalement, ils me disent, là, ça va me prendre 2 jours, 3 jours de montage, Mathieu. Bon, bah, OK, on va simplifier ça, on va simplifier ça. Il n'y avait que 2 jours à y accorder. On a simplifié ce qui était simplifiable et ce qui était moins important, finalement, secondaire.
Aujourd'hui, vous direz que tu dirais que le storyboard est quelque chose qui est de plus en plus dans les mentalités, de plus en plus dans les usages, ou c'est quelque chose qui reste encore très périphérique à la formation?
Non, je pense que ça rentre dans les usages. Pourquoi? Parce que je pense que le e-learning est rentré dans les usages, ça y est. Maintenant, quand on faisait du e-learning, ben voilà, ça pouvait être des cours filmés, donc on avait juste à filmer un cours, donc pas besoin de storyboarding. Quand c'était du fond vert, ben finalement, avec un script, on s'en sort bien puisque la personne va lire sur le prompteur et voilà, on n'a pas besoin de. On n'avait pas de graphisme. Et de, on avait pas de, on n'appliquait pas de pédagogie au graphisme, au niveau graphique. Maintenant, je pense que c'est de plus en plus utilisé quand même le storyboard, dans le sens où on se rend compte que on a un travail plus qualitatif et un résultat plus qualitatif avec cet outil. Parce que c'est vraiment un outil de travail à mon sens. C'est un outil de travail qui est extrêmement efficace pour pouvoir communiquer des idées graphiquement. Donc, il y a vraiment une notion graphique, puisque s'il n'y a pas ce graphisme-là, on appelle ça un script, s'il n'y a pas les dessins à côté. Et un script, voilà, ça transmet bien des idées. Maintenant, ça transmet des idées, voilà, quand c'est lu, bah c'est par la parole, c'est auditif, c'est des concepts, mais il n'y a pas d'image. Et aujourd'hui, on a du motion design, des vidéos, mais aussi beaucoup d'infographies. Et on se rend compte que la pédagogie appliquée au graphisme est en train de s'introduire quand même pas mal dans la formation. Et du coup, je pense que le storyboard est l'outil parfait finalement pour travailler sur la partie graphique des idées qu'on veut transmettre. Donc oui, je pense que ça rentre dans les usages. Maintenant, voilà, souvent, il faut que ça vienne un minimum, enfin, il faut qu'on ait une impulsion quelque part dans le service formation de quelqu'un qui dise, bon, bah, on va faire des storyboards maintenant, puisque généralement, c'est quelque chose qu'on va introduire dans des process de production. Il y a des personnes qui peuvent travailler comme ça, voilà, en autonomie, et qui vont prendre l'initiative de faire des storyboards et qui potentiellement vont trouver ça intéressant, qui vont mieux travailler, etc. Donc, potentiellement le communiquer à quelques collègues. Maintenant, c'est intéressant. Ça devient intéressant quand c'est vraiment pensé tout le process de production pédagogique d'une formation. Et donc, à ce niveau-là, je pense que le storyboarding n'est pas encore introduit parfaitement dans les process de production pédagogique. Maintenant, je pense que dans les services formation, il y a des formateurs qui ont vu des vidéos, qui se sont intéressés un petit peu et qui ont pris l'initiative de faire des storyboards pour travailler avec les compétences de montage finalement.
Il y a beaucoup de personnes qui disent, pour innover, utilisons un storyboard. Est-ce que finalement, c'est la bonne méthode ou alors est-ce qu'on innove d'abord et c'est les contenus qui sont innovants et impactants et le storyboard, c'est la façon de raconter l'histoire et de communiquer autour de cette production?
C'est intéressant comme question. Je pense qu'en termes d'innovation, si on parle du storyboard, on pourrait imaginer un super storyboard où, qui aurait une dimension en plus finalement. Et du coup, ce serait de l'innovation sur l'outil, sur l'outil même. Maintenant, je pense que quand on parle d'innovation dans la formation, on va faire référence souvent au contenu. On va faire l'innovation. On pourrait parler des vidéos interactives. On peut avoir des chemins dans la vidéo. Il y a Netflix, par exemple, qui s'y essayait carrément dans la série. C'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, il y a une dimension créative qui est intéressante dans le storyboard, puisque dans le storyboard, il faut qu'on mette en image des idées. Et mettre en image des idées, on se rend compte que finalement, on fait des connexions entre des concepts et on a une autre manière de réfléchir à l'histoire qu'on va raconter que quand on fait ça sur un script. Ce qui fait que je pense que de penser avec un storyboard, de penser... parce que tout se rapporte finalement à transmettre un message. Quand on veut transmettre un message, si on pense qu'on va être devant un fond vert, on va penser qu'on est en train de parler. Et donc, on va imaginer le message qu'on veut transmettre comme si on parle. Si on pense à une vidéo en motion design, par exemple, on va imaginer ça comme un dessin animé. Naturellement, finalement, le cerveau, il va faire des connexions différentes et on va avoir une créativité, je pense, qui va être un petit peu plus décuplée quand on va utiliser en plus l'image. Parce que voilà, l'image, on n'a pas tous les mêmes concepts, par exemple, dans un storyboard. Moi, j'avais un petit peu de mal, par exemple, à représenter certains concepts. Et quand je travaillais avec un monteur, bah, lui, finalement, il attachait à ces concepts-là des images différentes et des idées qui étaient toutes simples, finalement. Et donc, je pense que oui, le fait de travailler sur un storyboard, ça développe la créativité. Il y a d'ailleurs un jeu de société qui s'appelle Concept, qui est super, super intéressant. Donc c'est des petites cartes et en fait, on doit faire deviner ce qu'il y a sur la carte. Donc, c'est une sorte de Pictionary un petit peu. On doit faire deviner ce qu'il y a sur la carte en posant des pions sur un plateau. En fait, sur ce plateau-là, il y a plein de petites images qui représentent des concepts assez clés. Donc, quand on va avoir deux épées qui vont se croiser, bah, ça va être le concept qui va représenter la guerre. Quand on va avoir une tête de mort, ça va être le concept qui va représenter la mort, etc., etc. Donc, quand on est amené à penser un storyboard, en fait, on va être amené à penser les représentations graphiques des concepts qu'on essaie de transmettre. Et à ce moment-là, ça peut aider, d'ailleurs, à faire du storytelling pour transmettre le message. Donc, oui, je pense que on peut être que le storyboard permet d'être créatif. Après, est-ce qu'il permet d'être innovant? Oui, dans un sens, oui.
Finalement, l'innovation, ce n'est pas les combinaisons qui pourraient être imaginées à travers à la fois la technologie qui est apportée par le storyboard, la technique peut-être, et la formation et l'innovation dans la formation en soi. Imaginer des choses qui pourraient émerger justement à force que ce type d'usage devienne quelque chose de...
Oui, alors, il y a... En fait, derrière le concept d'innovation, souvent, on met beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, quand on parle de la formation, par exemple, on peut parler du e-learning, des plateformes LMS et du mobile learning, etc. Ça va être de l'innovation technique qui vient d'un besoin et d'un accès et d'un usage du téléphone qu'on a, mais c'est les plateformes qui sont développées. Pour moi, ça, c'est de l'innovation technique. Maintenant, on peut penser aussi à l'innovation pédagogique, où là, on va essayer d'innover dans la pédagogie. Et donc là, on pourrait faire appel à des concepts qui vont aller un petit peu au-delà du storytelling, mais on va faire appel à des concepts de gamification. Et voilà, dans la gamification, je pense qu'il y a un fondement pédagogique dans tout ça. Mais en fait, après, quand on pense à de la gamification, on peut avoir de l'innovation pédagogique, on peut avoir de l'innovation technique, on peut avoir de l'innovation graphique. Il peut y avoir des choses, du graphisme extrêmement simplifié, du graphisme un petit peu plus complexe. Voilà. Je pense qu'il y a différents leviers d'innovation dans la formation qui sont intéressants. Mais encore une fois, innover pour innover, pour moi, c'est pas forcément utile. Je place encore la pédagogie toujours au centre de tout ça. mais il faut que ça serve un objectif pédagogique, l'innovation, finalement. Après, ça peut servir d'autres objectifs, évidemment, mais je veux dire, innover pour essayer de faire une vidéo, par exemple, où on va faire des petits quiz au sein de la vidéo et où on va finalement avoir un feedback immédiat qui va être intégré dans la vidéo. Est-ce que pédagogiquement, on avait besoin de cette innovation alors qu'en fait, on aurait peut-être pu faire trois petites vidéos et faire les quiz après? Alors que là, on a une vidéo de 6 minutes où on a essayé de faire l'interactivité, mais l'interactivité, pour faire l'interactivité, voilà, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Pour moi, il faut que cette interactivité, elle a une justification, un minimum pédagogique pour essayer de pousser cette innovation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui dans la formation, mais je pense qu'on s'attache peut-être un petit peu trop parfois à faire de l'innovation pour l'innovation, sans justification pédagogique derrière.
Absolument. Très, très bonne. Peut-être une dernière question, Manal.
Je ne sais pas si Mathieu voudrait nous proposer des astuces ou des sites internet ou nous parler un peu par rapport à lui.
Alors, ce que je peux vous proposer, je vous renvoie encore une fois vers la chaîne YouTube CurseGesast. Je vous enverrai le lien. Je la trouve extrêmement, extrêmement intéressante, tant au niveau de la pédagogie qu'au niveau du graphisme et du travail qui est réalisé derrière. Au niveau des outils, moi je travaillais beaucoup avec Canva, donc c'était des outils en ligne. Je travaillais beaucoup avec Canva, je travaillais avec des banques d'icônes, donc Flaticone, The Noon Project. Il y a des banques d'images aussi comme Unsplash. Voilà, il y a beaucoup de choses gratuites sur internet qui sont libres de droit, qu'on peut utiliser et qui permettent finalement d'enrichir un petit peu, voilà, tout le contenu qu'on peut produire quand on est responsable formation et qu'on essaie de faire une production pédagogique finalement. Moi, quand je savais pas dessiner, par exemple, et que je faisais pas mon storyboard, je détaillais un petit peu l'animation que je voulais et je mettais les icônes que je pensais qui me paraissaient intéressantes. Donc, j'ai pioché sur des sites internet et des banques d'images gratuites, mais en termes de conseils, je dirais, voilà, il faut utiliser Internet. Il y a plein d'outils qui se trouvent. Il faut les trouver. En général, quand on veut, voilà, il y a les banques d'images. Donc, souvent, c'est en anglais. Donc, on va utiliser les termes de recherche Free Bank. On va utiliser les recherches quand on veut des outils. On va utiliser Builder. Donc, si vous mettez, par exemple, Storyboarding Builder, là, vous trouverez des logiciels qui permettent de faire du storyboard en ligne en général.
Donc, pour tous ces éléments-là, on les mettra dès que tu nous enverras, on les mettra dans les notes de l'émission de façon à ce que les gens puissent s'entraîner tranquillement. On arrive à la fin de l'émission. Mathieu, tous ceux qui t'ont apprécié, c'était très intéressant, merci beaucoup. S'ils veulent te suivre et te connaître, comment est-ce qu'on fait pour te joindre?
Alors, vous pouvez me retrouver. Donc, j'ai un compte Twitter, c'est MathDub, @MathDub. Sur LinkedIn, c'est Mathieu Dubrul. Vous pouvez me contacter par mail, hein, c'est dubrul.mathieu@gmail.com. Je vais peut-être pas donner mon téléphone, mais voilà, je réponds facilement aux mails, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Et voilà, je crois que c'est tout.
En tout cas, merci beaucoup. Merci Manal pour toutes tes questions. Et puis à très bientôt à tout le monde. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.